VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Au moins deux personnes ont été tuées, selon l'opposition, et plusieurs blessés jeudi à Libreville au Gabon, dans l'assaut des forces de sécurité contre le QG de l'opposant Jean Ping, dont l'annonce de la défaite à la présidentielle a plongé la capitale gabonaise dans des violences. Tout affrontement a été terminé aujourd'hui, mais les forces de l'ordre continuaient dans la matinée de procéder à des arrestations aux abords du QG de campagne de Jean Ping. On ignorait en revanche où Jean Ping lui-même avait trouvé refuge. On fait le point tout de suite avec notre envoyé spécial à Libreville, Idriss Fall.
C'est très difficile à donner. Je sais que Jean Ping a annoncé 2 morts. Des opposants m'ont parlé de 8 morts. Je sais qu'il y a de nombreuses arrestations au sein de l'opposition, y compris la plupart des cadres qui tournaient autour de Jean Ping. On me dit que même Zakari Mboto s'est remis au Niouf. Donc, par-delà cela, les barricades en ville. L'Assemblée nationale a été partiellement brûlée, le siège du quotidien national L'Union aussi, et je sais qu'une télévision Nazareth qui est proche de Jean Ping a été attaquée cette nuit par des hommes cagoulés. Donc globalement, la situation est si tendue qu'il n'y a pas de taxi qui circule à Libreville. Tous les magasins sont fermés, même l'hôtel où j'habite, les travailleurs n'ont pas pu venir à leur boulot aujourd'hui. Le calme est relativement revenu, mais cela me semble être un calme précaire parce que les jeunes qui ont manifesté hier avec lesquels j'ai parlé tenaient un meeting pour voir comment est-ce qu'ils vont aborder la journée. Donc au lendemain de la victoire annoncée de M. Ali Bongo, à quoi ressemble Libreville, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une ville fantôme.
Idriss Fall, envoyé spécial VOA Afrique. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a qualifié aujourd'hui la situation post-électorale au Gabon de crise profonde et a appelé les différentes parties au calme. Il est important que tous les acteurs rejettent la violence et appellent au calme. Toute contestation doit se faire avec des moyens pacifiques afin d'éviter l'embrasement du pays, a déclaré la vice-présidente de l'Union européenne dans un communiqué. Victoire d'Ali Bongo et des affrontements dans Libreville entre les forces de sécurité et des manifestants contestant donc la réélection du président sortant. Des événements suivis de près sur le continent. Bagassi Koura a recueilli la réaction de Ismaël Diallo. Il est le porte-parole du Front du renforcement de la citoyenneté à Ouagadougou, au Burkina Faso, où ils sont habitués à ce genre de situation.
Quelqu'un dira, écoutez, les résultats ont été donnés, il faut laisser faire. D'autres diront non, il ne faut pas accepter cela parce que ce serait accepter la forfaiture. Mais ça prouve encore une fois que les élections en Afrique seront de plus en plus difficiles, de plus en plus contestées, et il sera de plus en plus difficile au président sortant de trafiquer, prêtez-moi le terme, les résultats pour se maintenir au pouvoir. Je ne dis pas que le président sortant actuel au Gabon l'a fait. Je dis simplement que cela sera difficile de renouveler.
Vu les résultats assez serrés entre les deux candidats, 49% pour Ali Bongo et 48% pour Jean Ping, on se demande si le Gabon avait un système de second tour, cela pourrait peut-être contribuer à apaiser la situation.
Ça aurait été une bonne chose. Malheureusement, au Gabon, ils ont le système d'un seul tour, qui fait que c'est celui qui a la majorité, même si c'est de 50 voix, qui gagne. C'est dommage, mais c'est ainsi. C'est comme également les observateurs de l'Union européenne et, méditons également, des États-Unis ou le gouvernement américain qui demande un décompte bureau de vote par bureau de vote. Ce serait une bonne chose, certes, mais si cela n'est pas prévu par les lois et règlements du Gabon, ce serait difficile de le faire parce que ce serait un précédent. C'est une situation extrêmement difficile en ce moment. Espérons simplement que cela n'aille pas plus mal.
Est-ce qu'Ali Bongo n'a pas gagné aussi parce qu'il est le fils d'Omar Bongo avec un système assez bien implanté?
Il est difficile pour le président Ali Bongo de perdre les élections, vu que ce système est au pouvoir depuis longtemps. Mais en même temps, dire que Jean Ping est une alternative très différente d'Ali Bongo, cela me surprend un peu, parce qu'il a fait partie du système depuis toujours.
Alors, que peut faire l'Union africaine dans ce scénario où on s'achemine vers l'affrontement?
Bonne question. qu'est-ce qu'elle peut faire? J'aimerais bien savoir. Et je suis vraiment étonné de voir beaucoup de gens se battre pour diriger l'Union africaine. À part la satisfaction des égaux, je me demande vraiment si qui que ce soit a la capacité, la possibilité de créer quelque chose de nouveau dans cette organisation. Pour répondre simplement à votre question, je dirais que je crains que l'Union africaine n'ait pas grand-chose à proposer pour éviter que la situation dégénère. Vous voyez aujourd'hui le Burundi, vous voyez la Somalie, etc.
Ismaël Diallo de la société civile burkinabé au sujet du Gabon. Le gouvernement nigérien compte céder pour un bail de 90 ans 120 000 hectares de terres agricoles à des Saoudiens dans le but, dit-il, de développer la région Est et de lutter contre l'insécurité alimentaire. Les négociations sont en cours, mais les organisations de la société civile au Niger s'opposent à cette cession, considérée par elles comme un bradage des terres fertiles indispensable pour le bétail. Ce sont des agriculteurs et des éleveurs qui vont être spoliés, s'inquiète Moussa Tchangari. Il est le secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen.
Bon, on s'oppose parce que d'abord, les terres qui vont être concédées, ce ne sont pas des terres vierges et des terres inexploitées. Ce sont des terres agricoles déjà exploitées et aussi des terres pastorales. Donc, si on donne une telle superficie très vaste à un opérateur privé pour faire la production, ça sera au détriment des petits producteurs locaux, notamment les agriculteurs, les éleveurs qui vont être expoliés. Et donc, pour nous, ce n'est pas quelque chose d'acceptable, d'autant plus qu'on ne peut pas compter sur des opérateurs privés pour assurer la sécurité alimentaire de la population. Et de surcroît, ça intervient à un moment où cela paraît déjà très, très grave. Vous savez que cette région de Diffa est confrontée à l'insurrection de Boko Haram depuis quelques années. C'est donc une région déjà déchirée par un conflit. Et donc, si on vient, on donne ces terres à des Saoudiens, alors qu'il n'y a pas très longtemps déjà, les populations ont été chassées de ces terres, à la fois par les attaques de Boko Haram, mais aussi par les décisions du gouvernement d'évacuer les villes et les villages du lac Tchad.
Moussa Tchangari, qui défend donc les agriculteurs nigériens. Le ministre sud-africain des Finances, Pravin Gordhan, soupçonné d'espionnage, l'affaire agite en ce moment les rangs du parti au pouvoir, l'ANC. Son avocat a rassuré qu'il coopère pleinement avec les autorités. La police sud-africaine le soupçonne d'avoir supervisé la création au sein de ses services d'une unité chargée notamment d'espionner les hommes politiques.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le sommet du G20 qui s'ouvre dimanche à Chengdu, dans le sud-est de la Chine, s'annonce comme une réunion de la dernière chance entre Vladimir Poutine et Barack Obama pour trouver un accord sur la Syrie et l'Ukraine à 2 mois de la présidentielle américaine. Depuis leur tête-à-tête inattendu en novembre dernier en Turquie, qui a brisé la glace entre Moscou et Washington sur la crise syrienne, les deux dirigeants ont eu du mal à rapprocher leur position sur le règlement du conflit syrien malgré d'intenses efforts de leur chef de la diplomatie. Donald Trump s'est engagé mercredi à ne procéder à aucune régularisation de clandestins s'il était élu à la Maison-Blanche en novembre, confirmant une ligne dure quelques heures seulement après avoir rencontré le président mexicain.
And Mexico will pay for the wall.
Donald Trump, lors du même discours, il a énuméré plusieurs mesures et martelé que le Mexique paierait la construction du mur promis malgré les dénégations du président Enrique Peña Nieto. Michel Temer est devenu le nouveau président du Brésil quelques heures après la destitution controversée de Dilma Rousseff pour maquillage des comptes publics, mettant fin à 13 ans de règne de la gauche depuis le plus grand pays d'Amérique latine. Ancien vice-président de Mme Rousseff, dont il a précipité la chute, l'homme fort du PMDB, un parti de centre-droit, a prêté serment au Sénat et va diriger un Brésil dans la tourmente jusqu'aux prochaines élections législatives et présidentielles à la fin de l'année 2018. Dilma Rousseff a réagi avec virulence à sa destitution, dénonçant un coup d'État. Elle a promis à Michel Temer et ses nouveaux alliés de droite l'opposition la plus déterminée à laquelle puisse s'attendre un gouvernement de putschistes. Et puis, des élus américains font pression sur leur gouvernement pour qu'il renforce sa lutte contre l'esclavage sexuel des jeunes garçons au sein des forces armées afghanes soutenues par les États-Unis. Ces pressions font suite à un article de l'AFP en juin révélant notamment que les talibans tirent profit d'une pratique pédophile solidement ancrée dans la police afghane, le bachabazi ou jeu avec les garçons. Jean-Roger Billon à ce micro, fin de ce journal. Et donc le prochain, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque. Bon après-midi sur le continent et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.